Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Et nous reprenons notre série sur l'étude de cette lettre. Romains, nous allons lire au chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Romains, chapitre 5. À partir du verset 12 et jusqu'à la fin du chapitre. Et voici donc la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je vous rappelle qu'avant les vacances, nous avions vu un petit aperçu déjà de cette deuxième partie de ce chapitre 5 où Paul avait souligné trois choses. Il avait mis en avant deux personnes uniques, Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Il avait mis en avant le contraste entre les actes, les actions de ces deux hommes et aussi il avait établi une comparaison entre les résultats de ces actions entre d'Adam et de Jésus-Christ. Mais ce matin, nous voulons souligner autre chose que Paul décrit ici. Il souligne le conflit entre deux règnes qui s'opposent. Il y a d'un côté le règne du péché, le règne de la mort, et d'autre côté le règne de l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, le règne de la justice. On a déjà dit que ce passage est assez condensé, il est assez dense, assez complexe, mais on va prendre le temps. Et on va y rester sur plusieurs semaines, Dieu voulant, pour faire ressortir en fait le message qui est très clair de ce passage. Et c'est important pour nous de le faire, parce qu'on vit dans un monde, et depuis quelques années, depuis quelques temps maintenant, on parle de post-modernité. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la post-modernité a à voir avec ce passage? La post-modernité, c'est une philosophie, c'est une façon de voir le monde aujourd'hui une philosophie de la vie où il n'y a plus de notion d'absolu. Vous pouvez vous défendre une position morale, c'est bien, mais c'est la vôtre. Vous ne pouvez pas me l'imposer. Vous avez un certain mode de vie, c'est très bien, je suis heureux pour vous, mais vous ne pouvez pas l'imposer aux autres. Ça, c'est, pour résumer, la post-modernité. On ne peut pas imposer notre position morale ou notre mode de vie ou toute autre chose sur les autres. Et ce qui disparaît, en fait, dans le monde et chez les personnes qui adoptent cette philosophie, dans le monde autour de nous, ce monde post-moderne, c'est en fait qu'ils perdent la vue d'ensemble, ils perdent le grand tableau de l'histoire. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui vivent dans le monde, il n'y a pas de référence en dehors d'eux-mêmes. Pour ces personnes, l'histoire n'a aucun sens. Le monde est venu de nulle part et il va nulle part. Le mode de vie n'a pas de sens, sauf le sens que nous lui donnons. La vie elle-même n'a aucun sens, si ce n'est le sens que nous lui donnons. Et l'être humain, en fait, se retrouve perdu dans ce monde. Il n'a aucune ancre pour le maintenir dans cette vie. Il n'a pas la vue d'ensemble de toute l'histoire et il ne sait pas quelle est sa place. Et pour lui, la vie n'a pas de sens parce que la notion d'une vie qui a du sens n'existe pas pour une telle personne. Alors pourquoi est-ce que ce passage est important pour nous? Parce que ce passage est un passage parmi d'autres dans la Bible qui justement nous donne une vue d'ensemble. Qui donne du sens à tout. Qui donne du sens à tout. Nous avons vu dans les premiers chapitres de cette lettre de Paul aux Romains que Paul a rappelé que par nature, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous sous la condamnation de Dieu. Nous sommes tous sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. Mais la gloire de l'Évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il a souffert la condamnation à la place de tous ceux qui croient en lui. De sorte que Paul peut dire au début de ce chapitre que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit « nous pouvons même nous glorifier des afflictions ». Et nous nous glorifions en Dieu lui-même. Mais maintenant, dans cette deuxième partie de ce chapitre, Paul veut, pour prendre une autre image, il veut rajouter un objectif, l'objectif grand angle, pour que nous regardions la vie dans son ensemble, que nous réalisions que les fondations de notre vie personnelle sont plus importantes que la vie chrétienne individuelle. Et en fixant cet objectif grand angle, Paul nous fait voir l'histoire depuis Adam jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, pour que l'on réalise que devenir chrétien, ce n'est pas simplement rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et puis ensuite continuer notre vie. Non, mais c'est entrer dans un plan qui couvre toute l'histoire de l'humanité et qui couvre tout le monde. C'est réaliser que Dieu nous enlève de la famille d'Adam pour nous faire entrer dans sa famille, la famille du Seigneur Jésus-Christ. Il y a trois choses que nous voulons souligner ce matin. Paul, premièrement, veut nous montrer que dans ce tableau de l'histoire, dans cette vue d'ensemble de l'histoire, il voit le péché de l'homme écrit en gros caractères. Qu'est-ce qui explique la situation du monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique les comportements déviants des hommes, des êtres humains? Qu'est-ce qui explique la mort dans ce monde? Paul nous dit, la réponse, elle est là. Elle est dans la parole de Dieu. Adam a péché. Adam a désobéi à Dieu. Adam a chuté. Et avec sa chute, il a apporté la mort, la confusion, la condamnation de toute l'humanité. Verset 12, Paul nous dit « La mort s'est étendue sur tous les hommes. » Et il rajoute « Parce que tous ont péché. » Vous avez déjà vu qu'il a dit cela en Romains chapitre 3, verset 23. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est la réalité de tout être humain. Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais ici, Paul veut parler de quelque chose de plus grand. Il ne parle pas de notre péché en priorité, en premier. Il parle du péché d'Adam et comment nous sommes impliqués dans le péché d'Adam. La dernière fois, on a souligné que Paul voit dans ces versets le Seigneur Jésus-Christ et Adam non seulement comme des individus, mais comme des représentants. C'est-à-dire que ce que chacun d'eux faisait pouvait être mis sur le compte de ceux qu'ils représentaient. Paul nous dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes, pas seulement parce que tous ont péché, mais parce que tous ont péché en Adam. Tous ont péché en Adam. Et Paul nous dit que c'est la raison pour laquelle la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Verset 14. « Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Certains commentateurs pensent que, ou se demandent si Paul, en écrivant ce verset, pensait à la mort d'enfants ou de nourrissons dans le bas âge. Pourquoi meurent-ils alors qu'ils n'ont pas désobéi à Dieu comme Adam a désobéi? La réponse est là. On est tous impliqués dans le péché et la rébellion d'Adam. Quand Adam a péché, il a amené toute l'humanité dans une banqueroute spirituelle. Et tout ce que nous avons hérité, c'est un monde qui est séparé de Dieu, un monde qui est mûr pour le jugement. Regardez un peu comme Paul développe cette idée. Verset 15, il parle de l'offense d'un seul. Verset 16, un seul qui a péché. À la fin du verset 16, c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Verset 17, l'offense d'un seul. Verset 18, il parle du. C'est par une seule offense que la condamnation a atteint tous les hommes. Et le seul moyen que cela soit possible, c'est que le péché d'Adam, la désobéissance d'Adam au commandement de Dieu, que ce péché soit mis sur le compte de tous les membres de la famille d'Adam. Il est ce représentant et son péché est mis sur notre compte. Paul est en train de décrire le péché dans cette vue d'ensemble, dans le cadre de la vision d'ensemble de l'histoire. C'est une vision qui est terrifiante. La désobéissance d'un seul homme a rendu tous les autres pécheurs. Alors certains vont dire, ouais, mais cet arrangement, il n'est pas très juste. Au contraire, il est très juste. Imaginez par exemple que vous héritiez d'une fortune, d'une très grosse fortune. Est-ce que vous allez imaginer que cela est injuste et vous allez la donner à quelqu'un d'autre? Non, vous allez considérer cela comme étant parfaitement juste parce que vous faites partie de la famille. Et donc il est tout à fait juste que vous héritiez de cette fortune. Et c'est de cette manière que Dieu a constitué la race humaine depuis le début. On ne peut pas se retourner contre Dieu et lui dire « Mais pourquoi est-ce que tu as fait cet arrangement ?» Non, cet arrangement devait conduire Adam à vivre dans l'obéissance à Dieu et amener des bénédictions à ce monde. Mais Adam a chuté. Il s'est rebellé contre Dieu. Et il a amené la ruine sur toute sa descendance, sur toute sa famille, sur toute la race humaine. C'est une tragédie qui est cosmique. Notre père Adam a dilapidé notre fortune spirituelle. Il a amené toute la race humaine à la banqueroute spirituelle. C'est pour ça, par exemple, que David a pu écrire dans le psaume 51, verset 7, que sa mère l'a conçu dans le péché, qu'il est né dans l'iniquité. David n'écrivait pas cela parce qu'il pensait que c'était mauvais d'avoir des enfants. Non, mais il a compris que dès le commencement de sa vie, il était impliqué dans le péché qui a amené la ruine sur ce monde et qu'il était lui-même spirituellement ruiné. La chose merveilleuse au milieu de cela, c'est cette petite phrase que nous avons au verset 14 qui nous donne espoir. Adam est la figure de celui qui devait venir. Paul doit décrire cette terrible réalité, mais en fait, il n'est pas focalisé sur cette réalité. Il utilise la terrible réalité de ce que nous sommes par nature et du péché qui est entré dans le monde pour que nous voyions maintenant la beauté de l'Évangile et de la grâce de Dieu. Adam était un genre de modèle, il était la figure qui annonçait celui qui devait venir, celui qui est venu et n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Paul donc veut que nous réalisions, veut nous montrer le péché de l'homme écrit en gros caractères sur ce tableau de l'histoire, sur cette vue d'ensemble. Le péché est entré dans le monde. Mais deuxièmement, Paul veut nous montrer que la grâce de Dieu est elle aussi écrite en gros caractères sur ce tableau de l'histoire. Étant donné que Dieu a constitué la race humaine sous un représentant, cela lui donne le droit et le privilège de reconstituer un peuple sous un nouveau représentant. Et Dieu va envoyer son Fils, le second homme, le dernier Adam. Il est comme le premier Adam dans ce sens, il ne vient pas vivre pour lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait aucune raison de vivre pour lui-même, et encore moins de mourir pour lui-même. Mais Dieu envoie son Fils pour être un nouveau représentant, pour un nouveau peuple, une nouvelle humanité, une humanité qui est sauvée, une humanité qui est réconciliée avec son Créateur. Il y a dans ce sens donc un parallèle entre le Seigneur Jésus-Christ et Adam. Mais si ce deuxième Adam, le Seigneur Jésus-Christ, ce nouvel homme doit sauver une nouvelle humanité, il doit agir d'une façon qui est totalement opposée à la façon d'agir du premier Adam. Et pas seulement cela, mais il doit aussi faire quelque chose pour réparer ce que le premier Adam a fait. Il doit vivre d'une façon opposée et il doit faire quelque chose pour réparer ce que le premier Adam a fait. Si la seule offense d'un seul homme a amené toute l'humanité sous la condamnation de Dieu et à la mort, il faut les 33 années de la vie d'obéissance parfaite du deuxième Adam et sa mort expiatoire sur la croix pour ramener une nouvelle humanité à la vie. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a pris la place de ceux qui sont condamnés dans le péché d'Adam, de ceux qui sont aussi condamnés par leur propre péché. Et il a fait pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire. Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu. Dieu a puni nos péchés dans son Fils. Et ainsi, il peut nous réconcilier avec lui. C'est pour ça que Paul veut que nous voyons ce parallèle entre Adam et le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi cette opposition, ce contraste entre Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Adam a péché, il a chuté. Sa seule offense a amené la condamnation. Le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant pendant toute sa vie, même jusqu'à la mort sur la croix. Il y a une grande différence dans les résultats des actions d'Adam et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la condamnation et la mort pour le premier Adam. Il y a le don de la justice et de la vie éternelle pour le second, pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous avons cette vue d'ensemble de l'histoire? Est-ce que nous voyons combien la réalité est tragique? Ce n'est pas seulement une question de personnes qui font des mauvaises choses, qui peuvent ensuite amener une réparation. Non, c'est toute la race humaine qui est tombée avec son père, Adam. Elle est dans une banqueroute spirituelle, elle est séparée de Dieu, elle est incapable de trouver le chemin vers Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour être le deuxième Adam, dans une chair semblable à la nôtre, mais sans commettre de péché, afin de nous apporter le pardon et la restauration. Mais si Jésus n'était venu que pour mourir pour nos péchés, il nous aurait simplement donné l'occasion de retourner dans le jardin d'Éden et de recommencer à nouveau. Mais le Seigneur Jésus fait bien plus que cela. Il n'est pas seulement mort pour la culpabilité de nos péchés, non, mais il a vécu une vie d'obéissance à notre place et il nous revêt de sa justice. Cette justice n'est pas seulement une justice qui est parfaite, c'est aussi une justice qui est finale, une justice qui est irréversible. Et quand nous continuons dans ce monde à lutter avec le péché, que nous sommes dans ce monde des pécheurs, mais des pécheurs justifiés par la grâce de Dieu, comme nous allons le voir plus loin dans cette lettre, qu'est-ce qu'on va dire quand Satan va s'approcher de nous? Quand il va nous dire, oui, je sais que Jésus est mort sur la croix, mais regarde-toi. Regarde-toi, tu n'y arriveras jamais. Tu luttes, regarde comment tu luttes. Le péché est encore en toi, tu chutes, tu échoues encore. Et là, on pourra lui répondre, oui, Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais pas seulement pour me pardonner de mes péchés passés. Il a aussi vécu une vie d'obéissance parfaite et il me l'a donnée pour que je sois considéré juste pour toujours aux yeux de Dieu. Je suis considéré juste aux yeux de Dieu pour toujours à cause de la justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul est tellement excité par cet évangile. C'est pour ça que Paul trouve cet évangile tellement libérateur. C'est pour ça que Paul va pouvoir écrire plus loin qu'il est sûr que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous donne pas une demi-justice, mais il nous donne une justice qui est totale, une justice qui va durer pour toujours, une justice qui pourra supporter la sainteté de Dieu parce que c'est la justice de Jésus-Christ. Cela nous amène au troisième point. Paul voit dans ce tableau de l'histoire le péché de l'homme écrit en gros caractères. Il voit deuxièmement la grâce de Dieu écrite en gros caractères. Et troisièmement, il veut que nous voyons les privilèges que nous avons en tant que chrétiens et que nous voyons ces privilèges écrits en gros caractères sur ce tableau de l'histoire. Il veut, Paul, que nous baignions dans ces privilèges. C'est pour ça qu'il doit creuser. Il doit creuser jusqu'aux fondations. Si on ne descend pas jusqu'aux fondations, on ne va pas pouvoir bâtir une structure de l'Évangile suffisamment solide, suffisamment grande pour voir les privilèges qui sont les nôtres si nous sommes à Jésus-Christ. Et Paul résume ce qu'il veut nous dire avec une expression qu'il va utiliser à plusieurs reprises. Verset 15, par exemple, il dit « Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison. » La grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et au verset 20, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est-à-dire elle a abondé encore plus fort. Vous voyez ce qui se passe? Paul nous présente Adam d'un côté, avec son péché horrible et les conséquences tragiques de ce péché. Et il nous présente le Seigneur Jésus-Christ de l'autre côté, avec sa vie d'obéissance parfaite, avec sa mort, son sacrifice sur la croix, les bénédictions qui coulent de cela. Et Paul nous dit, ces choses sont opposées, mais elles ne sont pas équivalentes, elles ne sont pas égales. La grâce du Seigneur Jésus-Christ n'est pas égale au péché. Il y a bien plus de grâce en Jésus-Christ qu'il n'y a de péché en nous. Et Paul veut que nous réalisions que le Seigneur Jésus-Christ, le deuxième Adam, est bien plus grand que le premier. Que son pardon est bien plus grand que notre péché. Que sa grâce est bien plus grande que nos manquements. Et nous pouvons donc aller à lui, parce qu'il ne nous ramène pas au jardin d'Éden, mais il nous fait avancer vers la vie éternelle. Comme j'ai dit, ce n'est pas un passage qui est facile, mais c'est un passage qu'il vaut la peine d'étudier, de passer du temps, parce qu'en se saisissant, en comprenant ce que l'apôtre nous dit ici, nous voyons notre vie avec une nouvelle perspective. On voit où nous sommes dans l'histoire. Certains se sentent opprimés quand ils trébuchent, quand ils chutent. Certains sont sensibles, sont plus sensibles aux attaques de l'adversaire. C'est dans ces moments qu'il faut se rappeler que la grâce du Seigneur Jésus-Christ est plus grande que notre péché. Qu'il est impossible pour le péché que nous avons confessé à Christ d'être plus grand que sa grâce. Christ possède des océans de grâce. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, il n'est pas venu pour condamner ce monde, il est venu pour sauver. Il y a plus de grâce dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a de péché dans notre cœur. Nous devons venir à Christ, nous plonger dans cette grâce et dire, par exemple, comme John Newton qui répondait aux accusations de Satan quand il l'accusait au sujet de sa vie passée. Il a dit dans un cantique qu'il a écrit « Sois mon bouclier et ma cachette, afin que, à l'abri, à tes côtés, j'affronte mon féroce accusateur et lui dise que tu es mort. » Voilà la réponse que l'on va donner à l'accusateur. Voilà la réponse. La réponse, elle n'est pas en nous, non, elle est en Jésus-Christ. Il y a plus de grâce dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a de péché en moi. Et c'est ce qui nous permet de continuer. C'est ce qui nous permet d'avancer dans cette vie. Parfois, dans la vie chrétienne, on va lutter. Parfois, on a même l'impression de couler. Jésus nous dit qu'il y a plus de grâce en lui qu'il n'y a de manquement en nous. Parfois, on pense que on ne pourra jamais repartir. Parfois, on pense qu'on a perdu toute possibilité de nous réjouir dans le Seigneur à cause du péché, à cause de ce péché qui est encore en nous. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'on ne peut pas dépasser sa grâce par nos péchés. Le péché a abondé, oui, mais la grâce a surabondé. Paul l'avait compris. Paul était un meurtrier. Paul avait, avant sa conversion, il avait fait tuer des chrétiens, il avait persécuté l'Église. Et difficile de tomber plus bas que cela. Et Paul a compris qu'il y a plus de grâce dans le Seigneur Jésus qu'il n'y a de péché chez Saul de Tarse. Et c'est la même chose est vraie pour nous. Il y a plus de grâce dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a de péché en nous. Alors venons à Christ. Venons au Seigneur Jésus-Christ. Confessons nos péchés. Découvrons-le comme un sauveur merveilleux. L'Évangile est aussi merveilleux parce que le Seigneur Jésus-Christ a autant de grâce. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, qu'il nous aide à ruminer, que son esprit nous aide à ruminer ces choses, qu'il nous aide à nous réjouir dans cette grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.